Bienvenue à cette exploration approfondie du paysage politique galactique. On se base, comme toujours, sur les documents qu'on a pu consulter.
Oui, et c'est un univers sacrément complexe, hein, un vrai échiquier cosmique.
C'est ça, avec des acteurs qui ont des motivations, des méthodes, parfois radicalement différentes. Comprendre qui tire les ficelles et pourquoi, c'est un peu notre objectif aujourd'hui.
Exactement. On va plonger dans ce fameux document structure-politique-spatiopolis.pdf pour essayer de décrypter un peu les forces majeures qui y sont décrites.
Et la diversité est juste frappante.
Ah oui, on parle d'empires commerciaux qui sont presque des États, de fédérations démocratiques, d'alliances de monde qui cherchent juste leur autonomie.
Mais aussi d'explorateurs organisés, de gardiens du savoir.
Sans oublier les réseaux criminels et même les groupes qui contestent carrément l'ordre établi.
Donc notre mission, si on peut dire, c'est d'aller au-delà de la simple liste.
Voilà, comprendre la structure, bien sûr, mais aussi l'idéologie derrière, qui sont les figures clés.
Et surtout, comment tout ça interagit, comment ça s'agence.
C'est ça. Les sources sont denses, donc l'idée, c'est vraiment d'extraire la substance, pour avoir une vision, on espère, claire et nuancée.
Allez, on commence par les poids lourds, les grandes alliances politiques.
Allons-y. Et le premier, difficile de passer à côté, le consortium UCI, l'unité commerciale interspécifique.
Les documents parlent de corporatocratie militaro-économique, c'est fort comme terme.
Oui, mais ça dit bien ce que ça veut dire. En gros, l'économie et la politique.
Avec sa propre armée, pour la soutenir, j'imagine?
Tout à fait. Le vrai pouvoir, c'est le conseil des cartels. 12 maisons, leur poids, c'est leur part de marché.
D'accord.
Après, t'as le bureau de défense marchande. Ça, c'est le bras armé. Sécuriser les routes, les actifs.
Et la chambre d'arbitrage?
Pour les contrats, les litiges. Mais toujours sous un angle commercial. Leur but, c'est pas de gouverner des peuples.
Ah, mais de contrôler le marché.
Exactement. Contrôler, faire croître et facturer. Chaque service, la stabilité, ça se négocie. La prospérité, ça s'achète.
Tout service a un prix, c'est direct. Et qui tire les marrons du feu dans ce système?
Alors, les documents listent plusieurs espèces clés. C'est assez spécialisé.
Ah oui?
Oui. Les néo-galactiques, c'est la finance, la banque. Les cosmopolites, le juridique. Les contrats.
Logique.
C'est le bras armé, le bureau de défense.
Et les Astaniens?
L'ingénierie lourde, les mégastructures. C'est une machine, quoi. Très huilée. Chacun son rôle, chacun sa rentabilité.
Et il y a plein d'autres membres adhérents, si j'ai bien lu. Ça montre que le modèle attire, ou contraint.
Oui, l'influence est énorme. Et à la tête de la branche militaire, justement, on a une figure assez marquante.
Le commandant Vrax.
Un félan.
C'est ça.
Un stratège décrit comme implacable, avec sa doctrine de la surcharge contrôlée.
La surcharge contrôlée, qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Disons que c'est l'idée de submerger l'ennemi, pas juste par la force, mais par tout. La logistique, la pression économique, l'info.
Jusqu'à ce qu'il s'effondre sous le poids.
Voilà. Sous le poids de la complexité, du coût, c'est très UCI comme approche. La guerre comme une gestion de coûts et de ressources.
Et Vrax lui-même est actionnaire, c'est ça?
Oui. Dans plusieurs cartels. Ça montre bien la fusion entre militaire et économique. Son look aussi, entre le manteau officiel gris acier et or et l'uniforme de combat noir et rouge.
Puissance froide calculée. Ok, impressionnant. Mais ça doit créer des réactions, forcément.
Ah oui. Et c'est là qu'intervient la SEMNA, la Coalition des Mondes Non Alignés.
La CMNA.
Le contrepoids. L'Alliance pour l'autonomie, c'est ça?
C'est presque l'antithèse de l'UCI, oui. Une confédération très très souple. Chaque monde membre garde sa souveraineté totale.
Donc, l'Assemblée confédérée, le Conseil tournant, c'est plus pour coordonner que diriger. C'est tout à fait ça. Leur but, c'est de préserver la diversité politique, culturelle et surtout écologique, face au modèle souvent gourmand des grands blocs.
Un refuge pour ceux qui veulent pas de l'hégémonie, en gros.
Voilà. Et cette diversité, c'est leur force, même dans leur composition.
C'est-à-dire?
T'as les Arthuriens, experts en technocratie autonome, les Eegan, avec leur société de ruches biotech, très fort en écologie, les Knais, qui défendent les sociétés traditionnelles, qui sont des médiateurs, et les Danari, qui viennent de cultures de résistance axées sur la justice entre communautés.
Donc, l'hétérogénéité est vue comme une richesse.
Absolument. Pas comme un obstacle. C'est fascinant comme modèle.
Oui, basé sur la préservation des différences, pas sur l'uniformité. Et la figure emblématique, la reine-mère Charkanta, des Eegan.
Elle incarne bien ça, oui. très discrète mais efficace.
On parle de diplomatie biosensorielle. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
C'est une forme de communication organique. Ça passe par des échanges biochimiques, émotionnels, codés. Ça court-circuite le langage verbal pour aller direct aux intentions.
Ah ouais?
C'est lent, subtil, mais apparemment redoutable pour désamorcer les conflits. Et Char Quinta a cette aura. Elle a réussi à refertiliser des lunes désertiques, quand même.
Impressionnant.
Et le seul symbole commun, c'est ce bracelet de convergence.
Oui, un anneau de mémoire cristalline.
Très personnel. L'idéologie est claire. Autonomie, pas de modèle unique, alliance sans domination.
Pas d'armée unifiée, donc?
Non, mais une capacité de défense mutuelle si besoin.
D'accord. Donc on a l'empire commercial UCI, l'alliance autonomiste CMNA, et entre les deux, ou peut-être au-dessus, l'Union Galactique, l'UG.
Le modèle fédéraliste, démocratique, l'idée d'unir par la loi et la coopération.
Avec un Sénat, un Conseil de paix.
C'est ça. Pour maintenir la paix, avoir un cadre légal partagé, promouvoir la science, la culture.
L'UG aime bien se voir comme l'arbitre légal suprême.
Et qui sont les moteurs là-dedans? Les Eltrons sont mentionnés comme promoteurs culturels, médiateurs. Ça colle bien leur réputation, ça.
Ah oui, complètement. Ils excellent dans la diplomatie charismatique.
Et les néo-galactiques, ils font quoi ici? Pas la finance?
Ici, ils dirigent souvent le corps de paix, le bras armé, défensif et humanitaire de l'UG.
D'accord. Les cosmopolites travaillent sur l'intégration, les lois communes. Les Timbris, c'est la nouvelle vague de diplomates de terrain. Et t'as les Sariens, qui insistent beaucoup sur l'écologie.
Ça doit créer des tensions, ça, parfois.
Oui, un peu. Surtout face aux politiques plus extractives. Mais ça montre qu'il y a quand même un débat au sein de l'UG.
Et à la tête du Conseil de paix, une Zeltron, Liora Zell, grande prêtresse, visionnaire, polyglotte et curatrice de la galerie cosmique.
Oui, elle cumule. Elle incarne parfaitement cette idée d'union par la culture et la loi.
C'est elle qui est derrière la charte des mondes unifiés.
Exactement. La pierre angulaire morale et juridique de l'UG. Son influence est basée sur le charisme, une vision d'unité dans la diversité.
Le logo, les tenues, tout ça évoque l'équilibre entre diplomatie, loi et paix.
Et la capacité d'intervenir si besoin pour maintenir la paix. L'idéologie « paix par la diplomatie, stabilité par la loi commune », ça tranche avec l'UCI et la CMNA.
C'est clair. Bon, on a posé les trois grands piliers. Mais la galaxie, c'est plus que ça. Les sources parlent aussi d'organisations autonomes, assez fascinantes. L'Alliance Nomade, par exemple.
Ah, les explorateurs! Une structure vraiment unique.
Pas d'hiérarchie, un conseil des capitaines basé sur le prestige des découvertes.
C'est ça. Et leur base, c'est un vaisseau archive mobile, l'Arche Flèche. Leur mission, l'inconnu. Découvrir, cartographier, premier contact.
Et médiateur parfois?
Oui, dans les zones reculées, ils peuvent servir d'intermédiaire neutre. Une sorte de guilde d'aventuriers, mais avec une dimension scientifique et diplomatique.
Et qui en fait partie?
C'est ouvert.
À tous?
Oui. Beaucoup de jeunes néo-galactiques un peu idéalistes, des cosmopolites qui cherchent des planètes pour des minorités.
Et les Karnak, leur présence est controversée, disent les sources.
Oui, parce qu'on les soupçonne d'arrière-pensée expansionniste. Mais bon, leur connaissance des zones dangereuses est utile. L'Alliance les surveille, quoi.
Et cette capitaine Lyra Vos, légendaire, disparue, son signal qui réapparaît peut-être. Ça ajoute au mythe.
Carrément. Et l'absence d'uniforme, juste cet insigne, la boussole fractale, ça renforce l'image d'individualiste uni par une passion.
Explorer pour comprendre, non pour dominer. C'est noble comme credo.
Oui, ça contraste avec d'autres approches plus utilitaristes, on va dire. Ils se voient comme gardiens des savoirs découverts, ce qui les rapproche un peu d'une autre organisation, mais très différente.
Tu penses au conclave stellaire, les moines galactiques?
C'est un peu l'image, oui. Une communauté née du refus de vieilles civilisations élotiennes, Telkins, d'intégrer l'UG.
Leur but, maintenir l'harmonie du flux cosmique. C'est quoi ça, le flux cosmique?
C'est une sorte d'équilibre énergétique ou spirituel universel selon leur philosophie. Ils prônent la neutralité active, le respect de l'altérité.
Neutralité active, c'est un peu paradoxal, non? Comment ils s'organisent pour ça? Sans armée?
Alors, la gouvernance, c'est le cénacle des astres, des sages élus par acclamation cosmique. Une sorte de consensus intuitif.
D'accord.
Et c'est très décentralisé. Pas d'armée, mais des unités de préservation de l'harmonie. Des médiateurs, des mystiques, qui peuvent intervenir subtilement.
Subtilement?
Oui, pour désamorcer des tensions, protéger des équilibres fragiles. Et le point clé, c'est qu'ils reconnaissent plein de formes du flux. La foi hooligan, les chants aquamariens, ils imposent pas une seule doctrine.
Une unité spirituelle, pas politique ou économique.
C'est ça. Du coup, leurs relations avec les autres doivent être tendues.
Complexes, oui. Méfiance polie avec l'UG. Froideur avec l'UCI, qui les voit comme des gêneurs pacifistes. Alliés discrets de la CMNA. Respect mutuel avec les nomades. Et mépris total pour le syndicat d'Omicron.
Ils naviguent prudemment. Et ils ont des défis internes.
Ben oui. L'UG pousse pour plus d'intégration. Et chez les jeunes du conclave, il y a débat. Rester contemplatif ou s'engager plus activement pour défendre l'harmonie.
Le dilemme classique.
Voilà.
Leur devise actuelle résume bien. Nous ne dominons pas, nous n'imposons pas, nous cherchons l'harmonie. C'est délicat.
De l'harmonie cosmique à la préservation du savoir, on arrive à l'archive galactique. Encore une organisation neutre. Mais là, c'est science et techno.
Exactement. Un ordre technoscientifique, basé sur le mérite intellectuel, la rigueur. Le synode des veilleurs, à Corcil, dirige.
Leur mission ? Collecter, préserver, transmettre le savoir interstellaire.
Ouais, histoire, techno, bio, mais avec un contrôle éthique sur l'accès aux infos sensibles. Ils étudient aussi les civilisations disparues, les artefacts, les anomalies.
La grande bibliothèque galactique, avec des gardiens et des règles strictes. Qui sont ces gardiens, Ona ?
Majoritairement des Elochians. Les pros de l'archivage numérique, de l'analyse. Mais les aquamariens sont cruciaux aussi.
Pourquoi eux ?
Ils sont les gardiens de l'éthique biologique et des archives vivantes. Les écosystèmes, considérés comme des réservoirs de savoir. D'autres espèces apportent aussi leur expertise.
Et le chef, le Primarch Taris Vull, un Elochien ? L'anecdote qui dit qu'il n'a pas quitté son labo depuis 47 cycles, c'est...
Ça en dit long sur leur dévouement. Hein. C'est presque monacal, mais pour la science.
L'image qu'ils veulent donner, rigueur, objectivité absolue.
C'est ça. Et leur idéologie, le savoir n'appartient à personne, mais engage tout le monde. Une responsabilité collective, protéger la mémoire pour préserver l'équilibre galactique. Un autre type d'équilibre que celui du conclave, mais tout aussi vital pour eux.
Bon, on a vu les grands blocs, les organisations autonomes plutôt. Nobles. Mais les sources décrivent aussi l'envers du décor. Les structures dissidentes.
Ah oui. Et là, on commence par le côté vraiment sombre, les syndicats d'Omicron.
L'entente criminelle galactique. Pas une structure unique, c'est ça ?
Non, plutôt un réseau informel, des clans, des cartels, liés par des accords tacites, le profit et la peur mutuelle, sans doute. La légende du trône fantôme illustre bien ce côté insaisissable.
Et ils contrôlent quoi ? Le marché noir ?
Exactement. Contrebande, piraterie, chantage, esclavage techno, trafic de savoir interdit. Tout ce qui est illégal est rentable.
Qui sont les acteurs là-dedans ? J'imagine un beau mélange.
Oh oui, des néo-galactiques rebelles, les rois du cybercrime, les Drox brutaux, efficaces comme tueurs à gages.
Sympa.
Des Astaniens corrompus qui fournissent les ormes expérimentales, la logistique pirate, les Karnax comme troupes de choc. Et même des mercenaires d'énarines redoutables, mais pas toujours loyaux, apparemment.
Un écosystème du crime. Et dans l'ombre, il y aurait Nacharet, l'œil.
Une néo-galactique, insaisissable, pragmatique. Elle agirait via des avatars, suggère plus qu'elle n'ordonne.
Plus un maître espion qu'un parrain mafieux classique, alors.
C'est un peu l'idée, oui. Le pouvoir d'Omicron, c'est moins la force brute visible que le contrôle de l'info, la manipulation. Et l'application de leur charte non écrite, la dette, la peur.
Leur style vestimentaire, l'équipement, tout est fait pour la discrétion, la clandestinité.
Voilà, textile furtif, masque, symbole codé, arme artisanale, module pour effacer son identité, l'idéologie implicite.
Glaçante.
Vas-y, le chaos est un outil, l'information est plus puissante que le feu, le silence est la garantie, la dette, le lien, la peur, la loi.
Brrr. Un contre-pouvoir sombre, très pragmatique. Mais il y a une autre dissidence, presque à l'opposé.
Les dissidents du voile.
Oui, présentés comme des insurgés, des saboteurs, mais qui défendent le vivant.
C'est ça. Un réseau clandestin très différent d'Omicron. Eux aussi en cellule autonome, coordonnés par un cercle fantôme mouvant, souvent d'anciens militaires ou scientifiques déçus.
Leur but, c'est de lutter contre l'exploitation.
Contre les mégacorpos, comme Urash qui est mentionné.
Oui, et contre les pouvoirs corrompus en général. Ils protègent les mondes, les peuples, les écosystèmes menacés. Leurs membres viennent de partout, c'est ça? Unis par ce rejet de l'exploitation.
C'est leur force. Des mécanos, des officiers doubles, des biologistes, des artistes contestataires, ils sont infiltrés un peu partout.
Et ils frappent comment?
Sabotage ciblé, dénonciation, protection directe. Souvent de manière inattendue.
Et la figure emblématique, Taner Ramis, néo-galactique rebelle, ex-ingénieur militaire.
Devenu tacticien insurrectionnel. Son coup d'éclat, c'est la panne énergétique d'une station Urash. On le voit comme un fantôme, ou même un prophète pour certains.
Son look, mélange de récupération, technologie détournée et leur équipement souvent non létal, ça donne une image de guérilla idéologique.
Exactement. Leur logo, ce cercle brisé avec une flamme, on le trouve tagué partout comme symbole de résistance. L'idéologie est passionnée.
Le pouvoir corrompt, le vivant est sacré.
Chaque monde mérite une voie libre. Et surtout, il ne suffit pas de survivre, il faut résister. C'est une résistance qui se veut éthique, même si elle est illégale.
Ok, on a les grands blocs, les autonomes, l'ombre et la résistance. Mais les sources évoquent aussi plein de structures plus petites, locales.
Ah oui, la myriade de pouvoirs locaux. Oligarchie commerciale, conseils scientifiques planétaires, guildes, corporations privées, clans, communautés.
Et il ne faut pas les négliger, j'imagine.
Surtout pas. C'est le tissu conjonctif de la galaxie. Ils peuvent être alliés ou rivaux des grandes factions. Source d'intrigues locales, de corruption, mais aussi d'innovation.
C'est souvent là que l'influence des grands pouvoirs se joue concrètement, non?
Tout à fait. Une guilde marchande locale peut être un pion de l'UCI. Une cité franche peut incarner les valeurs de l'UG. Un clan pirate peut bosser pour Omicron.
Et certaines jouent sur plusieurs tableaux, comme cette Matsumoto Corp.
Exactement. Et les sources donnent deux exemples intéressants de ces structures un peu intermédiaires, para-institutionnelles.
Le Consortium Logistique Intergalactique, le CLI.
Oui, semi-privé, même mandataire technique de l'UG. C'est lui qui gère la logistique vitale pour l'expansion, la colonisation, la maintenance.
Aucune étoile n'est trop loin. Ambitieux.
Oui, mais ça montre aussi la dépendance de l'UG envers cette structure hyper efficace mais potentiellement autonome.
Et l'autre, c'est la Coalition Agritech Stellaire, CAS.
Une coalition intercorporative, partenaire de l'UG pour la colonisation dite « durable ». Ils développent l'agriculture en milieu hostile, avec une bioéthique affichée.
La station Verdeterra, c'est leur vitrine.
Oui, un symbole fort. Ces deux exemples, CLI et CAS, montrent bien comment des organisations très spécialisées, à la frontière publique-privée, façonnent concrètement la galaxie. Parfois plus que les grands discours politiques.
Pfiou, quel tour d'horizon, hein ? De la puissance de Lucie à la démocratie de l'UG, de l'autonomie de la CMNA à l'exploration des nomades.
De l'harmonie du conclave au savoir de l'archive, sans oublier les jeux d'ombre d'Omicron et la résistance du voile.
Et tout ce tissu local, c'est une mosaïque d'une complexité folle. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, au final ?
Plusieurs grandes lignes de tension apparaissent, c'est clair. D'abord, le conflit classique entre centralisation et décentralisation.
Lucie et l'UG qui veulent unifier, contrôler, face à la CMNA, aux nomades, aux dissidents qui défendent l'autonomie, la diversité.
C'est ça. Ensuite, la tension entre le pouvoir visible, officiel, et le pouvoir invisible, qu'il soit criminel comme Omicron, spirituel comme le conclave.
Ou basé sur l'info, comme l'archive, ou même Omicron encore.
Tout à fait. Et il y a aussi cette tension entre différentes visions de l'avenir.
L'expansion et le profit à tout prix pour l'UCI.
La paix par la loi et l'intégration pour l'UG.
La préservation de la diversité et de l'environnement pour la CMNA, le conclave, les dissidents.
La quête de savoir pour l'archive, les nomades. Ces lisios s'affrontent en permanence.
Et tout ça crée un équilibre galactique, hyper précaire j'imagine.
Constamment redéfini.
Exactement.
Par les alliances, les conflits, les découvertes, les trahisions. Et ça soulève une question fondamentale, en fait.
Qui est de savoir s'il y a un véritable centre de gravité dans tout ce bazar?
Précisément. Face à cette multiplication de forces, géants économiques, gardiens spirituels, maîtres de l'ombre, pionniers, structures locales, où se situe vraiment le pouvoir?
Est-ce dans les institutions, les réseaux, le contrôle des ressources, de l'info, la capacité à inspirer?
Ou bien, est-ce que cette galaxie est juste définie par ça? Par cette polyphonie, cette tension constante, sans poids d'équilibre stable possible?
C'est vertigineux comme question. Les documents nous donnent la carte des acteurs, mais le jeu lui-même reste complexe, sans fin.
Absolument. De quoi nourrir la réflexion bien au-delà de notre discussion d'aujourd'hui.